Chapitre 2. Les Comprachicos. Qui connaît à cette heure le mot Comprachicos? Et qui en sait le sens? Les Comprachicos, ou Comprape Quenos, était une hideuse et étrange affiliation nomade, fameuse au XVIIe siècle, oubliée au XVIIIe, ignorée aujourd'hui. Les Comprachicos sont, comme la poudre de succession, un ancien détail social caractéristique. Ils font partie de la vieille laideur humaine. Pour le grand regard de l'histoire qui voit les ensembles, les Comprachicos se rattachent à l'immense fait esclavage. Joseph, vendu par ses frères, est un chapitre de leur légende. Les Comprachicos ont laissé trace dans les législations pénales d'Espagne et d'Angleterre. On trouve ça et là, dans la confusion obscure des lois anglaises, la pression de ce fait monstrueux, comme on trouve l'empreinte du pied d'un sauvage dans une forêt. Comprachicos, de même que comprapecuenos, est un mot espagnol composé qui signifie « les achète petits ». Les comprachicos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en dérobaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants? Des monstres. Pourquoi des monstres? Pour rire. Le peuple a besoin de rire, les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin, il faut au Louvre le bouffon, l'un s'appelle Turlupin, l'autre Triboulet. Les efforts de l'homme pour se procurer de la joie sont parfois dignes de l'attention du philosophe. Qu'ébauchons-nous dans ces quelques pages préliminaires? Un chapitre du plus terrible des livres, du livre qu'on pourrait intituler « L'exploitation des malheureux par les heureux ». Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, cela a existé. Cela existe encore aujourd'hui. Aux époques naïves et féroces, cela constitue une industrie spéciale. Le XVIIe siècle, dit « grand siècle », fut une de ces époques. C'est un siècle très byzantin. Il eut la naïveté corrompue et la férocité délicate, variété curieuse de civilisation. Un tigre faisant la petite bouche, Madame de Sévigné minaude à propos du bûcher et de la roue. Ce siècle exploita beaucoup les enfants. Les historiens, flatteurs de ce siècle, ont caché la plaie, mais ils ont laissé voir le remède. Vincent de Paul. Pour que l'homme hoché réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là, un art. Il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance, on pétrissait la physionomie. Cette production artificielle de cas tératologiques avait ses règles. C'était toute une science. Qu'on s'imagine une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu a mis le regard, cette arme était le strabisme. Là où Dieu a mis l'harmonie, on mettait la difformité. Là où Dieu a mis la perfection, on rétablissait l'ébauche. Et aux yeux des connaisseurs, c'était l'ébauche qui était parfaite. Il y avait également des reprises en sous-œuvre pour les animaux. On inventait les chevaux pis. Turenne montait un cheval pis. De nos jours, ne peint-on pas les chiens en bleu et en vert? La nature est notre canevas. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. L'homme retouche la création. Parfois en bien, parfois en mal. Le bouffon de cour n'était pas autre chose qu'un essai de ramener l'homme au singe, progrès en arrière, chef-d'œuvre à reculons. En même temps, on tâchait de faire le singe homme. Barbe, duchesse de Cleveland et comtesse de Southampton, avait pour page un sapajou. Chez Françoise Sutton, baronne de Dudley, 8e pairesse du banc des barons, le thé était servi par un babouin vêtu de brocart d'or que Lady Dudley appelait « mon nègre ». Catherine Sidley, comtesse de Dorchester, allait prendre séance au Parlement dans un carrosse armoirié derrière lequel se tenaient debout, museaux au vent, trois papillons en grande livrée. Une duchesse de Medina Coeli, dont le cardinal Paulus vit le lever, se faisait mettre ses bas par un orang-outan. Ces singes, montés en grade, faisaient contrepoids aux hommes brutalisés et bestialisés. Cette promiscuité, voulue par les grands, de l'homme et de la bête, était particulièrement soulignée par le nain et le chien. Le nain ne quittait jamais le chien, toujours plus grand que lui. Le chien était le bini du nain. C'était comme deux colliers accouplés. Cette juxtaposition est constatée par une foule de monuments domestiques, notamment par le portrait de Geoffrey Hudson, nain de Henriette de France, fille de Henri IV, femme de Charles Ier. Dégrader l'homme mène à le déformer. On complétait la suppression d'État par la défiguration. Certains vivisecteurs de ces temps-là réussissaient très bien à effacer de la face humaine l'effigie du vigne. Le docteur Conquest, membre du collège d'Amen Street et visiteur juré des boutiques de chimistes de Londres, a écrit un livre en latin sur cette chirurgie à rebours dont il donne les procédés. À en croire Justus de Kerwick Fergus, l'inventeur de cette chirurgie est un moine nommé Avonmore, mot irlandais qui signifie « grande rivière ». Le nain de l'électeur palatin, Perkeo, dont la poupée ou le spectre sort d'une boîte à surprise dans la cave de Heidelberg, était un remarquable spécimen de cette science très variée dans ses applications. Cela faisait des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser. Cette fabrication de monstres se pratiquait sur une grande échelle et comprenait divers genres. Il en fallait au sultan, il en fallait au pape, à l'un pour garder ses femmes, à l'autre pour faire ses prières. C'était un genre à part, ne pouvant se reproduire lui-même. Ces à peu près humains étaient utiles à la volupté et à la religion. Le sérail et la chapelle Sixtine consommaient la même espèce de monstre, ici féroce, là suave. On savait produire dans ces temps-là des choses qu'on ne produit plus maintenant. On avait des talents qui nous manquent. Et ce n'est pas sans raison que les bons esprits crient à la décadence. On ne sait plus sculpter en pleine chair humaine. Cela tient à ce que l'art des supplices se perd. On était virtuose en ce genre, on ne l'est plus. On a simplifié cet art au point qu'il va bientôt peut-être disparaître tout à fait. En coupant les membres à des hommes vivants, en leur ouvrant le ventre, en leur arrachant les viscères, on prenait sur le fait les phénomènes, on avait des trouvailles. Il faut y renoncer. Et nous sommes privés des progrès que le bourreau faisait faire à la chirurgie. Cette vivisection d'autrefois ne se bornait pas à confectionner pour la place publique des phénomènes, pour les palais des bouffons, espèce d'augmentative du courtisan, et pour les sultans et papes des eunuques. Elle abondait en variantes. Un de ses triomphes, c'était de faire un coq pour le roi d'Angleterre. Il était d'usage, dans le palais du roi d'Angleterre, qu'il y eût une sorte d'homme nocturne, chantant comme le coq. Ce veilleur, debout pendant qu'on dormait, rôdait dans le palais et poussait d'heure en heure ce cri de basse-cour. répétées autant de fois qu'il le fallait pour supplérir à une cloche. Cet homme, promu coq, avait subi pour cela en son enfance une opération dans le pharynx, laquelle fait partie de l'art décrit par le docteur Conquest. Sous Charles II, une salivation inhérente, l'opération ayant dégoûté la duchesse de Portsmouth, on conserva la fonction, afin de ne point amoindrir l'éclat de la couronne, mais on fit pousser le cri du coq par un homme non mutilé. On choisissait d'ordinaire pour cet emploi honorable un ancien officier. Sous Jacques II, ce fonctionnaire se nommait William Samson Coq et recevait annuellement pour son champ 9 livres de shillings 6 sous. Voir le docteur Chamberlain, état présent de l'Angleterre, 1688, première partie, chapitre 13, page 179. Il y a 100 ans à peine, à Pétersbourg, les mémoires de Catherine II le racontent. Quand le tsar ou la tsarine était mécontent d'un prince russe, on faisait accroupir le prince dans la grande antichambre du palais. Et il restait dans cette posture un nombre de jours déterminé, miaulant, par ordre comme un chat, ou gloussant comme une poule qui couve et becquetant à terre sa nourriture. Ces modes sont passées. Moins qu'on ne croit pourtant. Aujourd'hui, les courtisans gloussant pour plaire modifient un peu l'intonation. Plus d'un ramasse à terre, nous ne disons pas dans la boue, ce qu'il mange. Il est très heureux que les rois ne puissent pas se tromper. De cette façon, leur contradiction n'embarrasse jamais. En approuvant sans cesse, on est sûr d'avoir toujours raison, ce qui est agréable. Louis XIV n'eût aimé voir à Versailles ni un officier faisant le coq, ni un prince faisant le dindon. Ce qui rehaussait la dignité royale et impériale en Angleterre et en Russie eût semblé à Louis le Grand incompatible avec la couronne de Saint-Louis. On sait son mécontentement quand Madame Henriette, une nuit, s'oublia jusqu'à voir en songe une poule. Grave inconvenance, en effet, dans une personne de la cour. Quand on est de la grande, on ne doit point rêver de la basse. Bossuet, on s'en souvient, partagea le scandale de Louis XIV. Le commerce des enfants au XVIIe siècle se complétait, nous venons de l'expliquer, par une industrie. Les comprachicos faisaient ce commerce et exerçaient cette industrie. Ils achetaient des enfants, travaillaient un peu cette matière première et la revendaient ensuite. Les vendeurs étaient de toutes sortes, depuis le père misérable se débarrassant de sa famille jusqu'au maître utilisant son hara d'esclave. Vendre des hommes n'avait rien que de simple. De nos jours, on s'est battu pour maintenir ce droit. On se rappelle, il y a de cela moins d'un siècle, l'électeur de Hesse vendant ses sujets au roi d'Angleterre qui avait besoin d'hommes à faire tuer en Amérique. On allait chez l'électeur de Hesse comme chez le boucher, acheter de la viande. L'électeur de Hesse tenait de la chair à canon. Ce prince accrochait ses sujets dans sa boutique. Marchandez, c'est à vendre. En Angleterre, sous Jeffreys, après la tragique aventure de Monmouth, il y eut force seigneurs et gentilshommes décapités et écartelés. Ces suppliciés laissèrent des épouses et des filles, veuves et orphelines, que Jacques II donna à la reine sa femme. La reine vendit ses ladies à Guillaume Penn. Il est probable que ce roi avait une remise et tant pour cent. Ce qui étonne, ce n'est pas que Jacques II ait vendu ses femmes, c'est que Guillaume Penn les ait achetées. L'emplette de Penn s'excuse ou s'explique par ceci que Penn, ayant un désert à ensemencer d'hommes, avait besoin de femmes. Les femmes faisaient partie de son outillage. Ces ladies furent une bonne affaire pour sa gracieuse majesté la reine. Les jeunes se vendirent cher. On songe, avec le malaise d'un sentiment de scandale compliqué, que Penn eut probablement de vieilles duchesses à très bon marché. les Compadchicos se nommaient aussi les Chelas, mot hindou qui signifie « dénicheur d'enfants ». Longtemps, les Compadchicos ne se cachèrent qu'à demi. Il y a parfois dans l'ordre social une pénombre complaisante aux industries scélérates. Elles s'y conservent. Nous avons vu de nos jours en Espagne une affiliation de ce genre, dirigée par le trabucaire Waymon Sells, durée de 1834 à 1866, et tenir 30 ans sous la terreur trois provinces, Valence, Alicante et Murcie. Sous les Stuarts, les Compadchicos n'étaient point mal en cour. Au besoin, la raison d'État se servait d'eux. Ils furent, pour Jacques II, presque un instrumentum régni. C'était l'époque où l'on tronquait les familles encombrantes et réfractaires, où l'on coupait court aux filiations, où l'on supprimait brusquement les héritiers. Parfois, on frustrait une branche au profit de l'autre. Les Compadchicos avaient un talent, défiguré, qui les recommandait à la politique. Défiguré vaut mieux que tué. Il y avait bien le masque de fer, mais c'est un gros moyen. On ne peut peupler l'Europe de masques de fer. Tandis que les battleurs difformes courent les rues sans invraisemblance. Et puis, le masque de fer est arrachable. Le masque de chair ne l'est pas. Vous masquez à jamais avec votre propre visage. Rien n'est plus ingénieux. Les Compadchicos travaillaient l'homme comme les Chinois travaillent l'arbre. Ils avaient des secrets, nous l'avons dit. Ils avaient des trucs. Art perdu. Un certain rabougrissement bizarre sortait de leurs mains. C'était ridicule et profond. Ils touchaient à un petit être avec tant d'esprit que le père ne l'eût pas reconnu. Quelquefois, il laissait la colonne dorsale droite, mais il refaisait la face. Il démarquait un enfant comme on démarque un mouchoir. Les produits destinés aux batteleurs avaient les articulations disloquées d'une façon savante. On les eût dit désossés. Cela faisait des gymnastes. Non seulement les Compadchicos ôtaient à l'enfant son visage, mais ils lui ôtaient sa mémoire. Du moins, ils lui en ôtaient ce qu'il pouvait. L'enfant n'avait point conscience de la mutilation qu'il avait subie. Cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face, non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi et qu'ensuite on l'avait guéri. Guéri de quoi? Il l'ignorait. Des brûlures par le soufre et des incisions par le fer. Il ne se rappelait rien. Les Compadchicos, pendant l'opération, assoupissait le petit patient au moyen d'une poudre stupéfiante qui passait pour magique et qui supprimait la douleur. Cette poudre a été de tout temps connue en Chine et y est encore employée à l'heure qu'il est. La Chine a eu avant nous toutes nos inventions, l'imprimerie, l'artillerie, l'aérostation, le chloroforme. Seulement, la découverte qui en Europe prend tout de suite vie et croissance et devient prodige et merveille, reste embryon en Chine et s'y conserve morte. La Chine est un bocal de foetus. Puisque nous sommes en Chine, restons-y un moment encore pour un détail. En Chine, de tout temps, on a vu la recherche d'art et d'industrie que voici. C'est le moulage de l'homme vivant. On prend un enfant de 2 ou 3 ans, on le met dans un vase de porcelaine, plus ou moins bizarre, sans couvercle et sans fond, pour que la tête et les pieds passent. Le jour, on tient ce vase debout. La nuit, on le couche pour que l'enfant puisse dormir. L'enfant grossit ainsi, sans grandir. En plissant de sa chair comprimée et de ses os tordus, les bossages du vase. Cette croissance en bouteille dure plusieurs années. À un moment donné, elle est irrémédiable. Quand on juge que cela a pris et que le monstre est fait, on casse le vase, l'enfant en sort, et l'on a un homme ayant la forme d'un pot. C'est commode, on peut d'avance se commander son nain de la forme qu'on veut. Jacques II toléra les contes Pratchikos. Par une bonne raison, c'est qu'il s'en servait. Cela du moins lui arriva plus d'une fois. On ne dédaigne pas toujours ce qu'on méprise. Cette industrie d'en bas, expédient excellent parfois pour l'industrie d'en haut qu'on nomme la politique, était volontairement laissée misérable, mais point persécutée. Aucune surveillance, mais une certaine attention. Cela peut être utile. La loi fermait un œil, le roi ouvrait l'autre. Quelquefois, le roi allait jusqu'à avouer sa complicité. Ce sont là les audaces du terrorisme monarchique. Le défiguré était fleur-de-lysée. On lui ôtait la marque de Dieu, on lui mettait la marque du roi. Jacob Astley, chevalier et baronnet, seigneur de Melton, constable dans le comté de Norfolk, eut dans sa famille un enfant vendu, sur le front duquel le commissaire vendeur avait imprimé au fer chaud une fleur de lys. Dans de certains cas, si l'on tenait à constater, pour des raisons quelconques, l'origine royale de la situation nouvelle faite à l'enfant, on employait ce moyen. L'Angleterre nous a toujours fait l'honneur d'utiliser, pour ses usages personnels, la fleur de lys. Les contes Pratchikos, avec la nuance qui sépare une industrie d'un fanatisme, étaient analogues aux étrangleurs de l'Inde. Ils vivaient entre eux, en bande, un peu baladins, mais par prétexte. La circulation leur était ainsi plus facile. Ils campaient, çà et là, mais graves, religieux, et n'ayant avec les autres nomades aucune ressemblance, incapables de vol. Le peuple les a longtemps confondus à tort avec les morisques d'Espagne et les morisques de Chine. Les morisques d'Espagne étaient faux-monnayeurs, les morisques de Chine étaient filous. Rien de pareil chez les contes Pratchikos. C'étaient d'honnêtes gens. Qu'on en pense ce qu'on voudra, ils étaient parfois sincèrement scrupuleux. Ils poussaient une porte, entraient, marchandaient un enfant, payaient, et l'emportait. Cela se faisait correctement. Ils étaient de tous les pays. Sous ce nom, contes Pratchikos, fraternisaient des Anglais, des Français, des Castillans, des Allemands, des Italiens. Une même pensée, une même superstition, l'exploitation en commun d'un même métier, font de ces fusions. Dans cette fraternité de bandits, des Levantins représentaient l'Orient, des Ponantais représentaient l'Occident. Force basque y dialoguait avec force irlandais. Le basque et l'irlandais se comprennent. Ils parlent le vieux jargon punique. Ajoutez à cela les relations intimes de l'Irlande catholique avec la catholique Espagne. Relations telles qu'elles ont fini par faire prendre Londres presque un roi d'Irlande, le roi gallois de Boigny, ce qui a produit le comté de Leitrim. Les contes Pratchikos étaient plutôt une association qu'une peuplade, plutôt un résidu qu'une association. C'était toute la gueuserie de l'univers ayant pour industrie un crime. C'était une sorte de peuple harlequin composé de tous les haillons. Affilier un homme, c'était coudre une loque. Errer était la loi d'existence des contes Pratchikos. Apparaître, puis disparaître. Qui n'est que toléré ne prend pas racine. Même dans les royaumes où leur industrie était pourvoyeuse des cours et aux besoins auxiliaires du pouvoir royal, ils étaient parfois tout à coup rudoyés. Les rois utilisaient leur art et mettaient les artistes aux galères. Ces inconséquences sont dans le va-et-vient du caprice royal. Car tel est notre plaisir. Pierre qui roule et industrie qui rôde n'amassent pas de mousse. Les contes Pratchikos étaient pauvres. Ils auraient pu dire ce que disait cette sorcière maigre et en guenille voyant s'allumer la torche du bûcher. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Peut-être, probablement même, leurs chefs, restés inconnus, Les entrepreneurs en grand du commerce des enfants étaient riches. Ce point, après 2 siècles, serait malaisé à éclaircir. C'était, nous l'avons dit, une affiliation. Elle avait ses lois, son serment, ses formules. Elle avait presque sa cabale. Qui voudrait en savoir long aujourd'hui sur les Comprachicos n'aurait qu'à aller en Biscaye et en Galice. Comme il y avait beaucoup de Basques parmi eux, c'est dans ces montagnes-là qu'est leur légende. On parle encore à l'heure qu'il est des Comprachicos au Arzen, à Urbis Tondo, à Leso, à Astigaraga. A guardate, Nino, que voi uni la mar al Comprachicos. Et dans ce pays-là, le cri d'intimidation des mères aux enfants. Prends garde, je vais appeler les Comprachicos. Les Comprachicos, comme les Tziganes et les Gypsies, se donnaient des rendez-vous. De temps en temps, les chefs échangeaient des colloques. Ils avaient, au XVIIe siècle, 4 principaux points de rencontre. 1 en Espagne, le défilé de Pancorbo. 1 en Allemagne, la clairière dite « la mauvaise femme » près d'Ietkirch, où il y a 2 bas-reliefs énigmatiques représentant une femme qui a une tête et un homme qui n'en a pas. 1 en France, le tertre où était la colossale statue Massue la Promesse, dans l'ancien bois sacré Borvo Tomona, près de Bourbonne-les-Bains. 1 en Angleterre, derrière le mur du jardin de William Challoner et cuillère de Gisbrough, en Cleveland, dans York, entre la tour carrée et le grand pignon percé d'une porte ogive. Les lois contre les vagabonds ont toujours été très rigoureuses en Angleterre. L'Angleterre, dans sa législation gothique, semblait s'inspirer de ce principe « homo errans ferra errante pejor ». Un des statuts spéciaux qualifie l'homme sans asile plus dangereux que l'aspic, le dragon, le lynx et le basilic. Astrosior, aspide, dracone, lynch et basilico. L'Angleterre a longtemps eu le même souci des gypsies dont elle voulait se débarrasser que des loups dont elle s'était nettoyée. En cela, l'anglais diffère de l'irlandais qui prie les saints pour la santé du loup et l'appelle « mon parrain ». La loi anglaise, pourtant, de même qu'elle tolérait, on vient de le voir, le loup apprivoisé et domestiqué, devenu en quelque sorte un chien, tolérait le vagabond à état, devenu un sujet. On n'inquiétait ni le saltimbanque, ni le barbier ambulant, ni le physicien, ni le colporteur, ni le savant en plein vent, attendu qu'ils ont un métier pour vivre. Hors de là, et à ces exceptions près, l'espèce d'homme libre qu'il y a dans l'homme errant faisait peur à la loi. Un passant était un ennemi public possible. Cette chose moderne, flâner, était ignorée. On ne connaissait que cette chose antique, rôder. La mauvaise mine, ce je ne sais quoi que tout le monde comprend et que personne ne peut définir, suffisait pour que la société prît un homme au collet. Où demeures-tu? Que fais-tu? Et s'il ne pouvait répondre, de dures pénalités l'attendaient. Le fer et le feu étaient dans le code. La loi pratiquait la cautérisation du vagabondage. De là, sur tout le territoire anglais, une vraie loi des suspects, appliquée aux rôdeurs, volontiers malfaiteurs, disons-le, et particulièrement aux gypsies, dont l'expulsion a été à tort comparée à l'expulsion des juifs et des maures d'Espagne et des protestants de France. Quant à nous, nous ne confondons point une battue avec une persécution. Les Comprachicos, insistons-y, n'avaient rien de commun avec les gypsies. Les gypsies étaient une nation. Les Comprachicos étaient un composé de toutes les nations. Un résidu, nous l'avons dit. Cuvette horrible d'eaux immondes. Les Comprachicos n'avaient point, comme les gypsies, un idiome à eux. Leur jargon était une promiscuité d'idiomes. Toutes les langues mêlées étaient leur langue. Ils parlaient un tohu-bohu. Ils avaient fini par être, ainsi que les gypsies, un peuple serpentant parmi les peuples. Mais leur lien commun était l'affiliation. non la race. À toutes les époques de l'histoire, on peut constater, dans cette vaste masse liquide qui est l'humanité, de ces ruisseaux d'hommes vénéneux coulant à part, avec quelque empoisonnement autour d'eux. Les gypsies étaient une famille, les comprachicos étaient une franc-maçonnerie. Maçonnerie ayant, non un buste auguste, mais une industrie hideuse. Dernière différence, la religion. Les gypsies étaient païens, les comprachicos étaient chrétiens. Et même bons chrétiens, comme il s'y est à une affiliation qui, bien que mélangée de tous les peuples, avait pris naissance en Espagne, lieu dévot. Ils étaient plus que chrétiens, ils étaient catholiques. Ils étaient plus que catholiques, ils étaient romains. Et si ombrageux dans leur foi et si purs qu'ils refusèrent de s'associer avec les nomades hongrois du comitat de Petz, commandés et conduits par un vieillard ayant pour sceptre un bâton à pommes d'argent que surmonte l'aigle d'Autriche à deux têtes. Il est vrai que ces Hongrois étaient schismatiques au point de célébrer l'Assomption le 27 août, ce qui est abominable. En Angleterre, tant que régnèrent les Stuarts, la filiation des Comprachicos fut, nous en avons laissé entrevoir les motifs, à peu près protégée. Jacques II, homme fervent qui persécutait les Juifs et traquait les Gypsies, fut bon prince pour les Comprachicos. On a vu pourquoi. Les Comprachicos étaient acheteurs de la denrée humaine dont le roi était marchand. Ils excellaient dans les disparitions. Le bien de l'État veut de temps en temps des disparitions. Un héritier gênant en bas âge, qu'il prenait et qu'il maniait, perdait sa forme. Ceci facilitait les confiscations. Les transferts de seigneurie aux favoris en étaient simplifiés. Les Comprachicos étaient de plus très discrets et très taciturnes, s'engageaient au silence et tenaient parole, ce qui est nécessaire pour les choses d'État. Il n'y avait presque pas d'exemple qu'ils eussent trahi les secrets du roi. C'était, il est vrai, leur intérêt. Et si le roi eût perdu confiance, ils eussent été fort en danger. Ils étaient donc de ressources au point de vue de la politique. En outre, ces artistes fournissaient des chanteurs au Saint-Père. Les Comprachicos étaient utiles aux Miserere d'Allegri. Ils étaient particulièrement dévots à Marie. Tout ceci plaisait au papisme des Stuarts. Jacques II ne pouvait être hostile à des hommes religieux qui poussaient la dévotion à la Vierge jusqu'à fabriquer des eunuques. En 1688, il y eut un changement de dynastie en Angleterre. Orange supplanta Stuart, Guillaume III remplaça Jacques II. Jacques II alla mourir en exil où il se fit des miracles sur son tombeau, et où ses reliques guérirent l'évêque d'Autun de la fistule, digne récompense des vertus chrétiennes de ce prince. Guillaume, n'ayant point les mêmes idées ni les mêmes pratiques que Jacques, fut sévère aux Comprachicos. Il mit beaucoup de bonne volonté à l'écrasement de cette vermine. Un statut des premiers temps de Guillaume et Marie frappa rudement la filiation des acheteurs d'enfants. Ce fut un coup de massue sur les Comprachicos, désormais pulvérisés. Au terme de ce statut, les hommes de cette affiliation, pris et dûment convaincus, devaient être marqués sur l'épaule d'un fer chaud imprimant un R, qui signifie « rogue », c'est-à-dire « gueux », sur la main gauche d'un T, signifiant « fif », c'est-à-dire « voleur », et sur la main droite d'un M signifiant « manslay », c'est-à-dire « meurtrier ». Les chefs, présumés riches, quoique d'aspect mendiant, seraient punis du colistrigium, qui est le pilori, et marqués au front d'un P, plus leurs biens confisqués et les arbres de leurs bois déracinés. Ceux qui ne dénonceraient point les Comprachicos seraient châtiés de confiscation et de prison perpétuelle, comme pour le crime de misprision. Quant aux femmes trouvées parmi ces hommes, elle subirait le cooking stool, qui est un trébuchet dont l'appellation, composée du mot français « coquine » et du mot allemand « stuhl », signifie « chaise de p ». La loi anglaise étant douée d'une longévité bizarre, cette punition existe encore dans la législation d'Angleterre pour les femmes querelleuses. On suspend le cooking stool au-dessus d'une rivière ou d'un étang, on assoit la femme dedans et on laisse tomber la chaise dans l'eau. Puis on la retire et on recommence trois fois ce plongeon de la femme. « Pour rafraîchir sa colère, » dit le commentateur Chamberlain.